Vous écoutez, on lit pour vous.
Inégal face à la retraite. Un texte de Gérard Bérubé, paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir. La campagne REER 2024 qui vient de se terminer est l'occasion de nous rappeler que la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes dans un contexte de travail se répercute avec plus de sensibilité encore à la retraite. La légère amélioration observée au fil des ans du côté salarial tarde à se matérialiser lorsque la retraite est venue. Si on prend les données du Bureau sur l'équité salariale du gouvernement ontarien publiées en mai 2024, on constate que l'écart entre les sexes en matière de pension au Canada ne s'est pas réduit depuis 1976. Il est même passé de 15 % à 17 % en 2021, malgré la participation accrue des femmes au marché du travail. À l'échelle internationale, le Canada se classe au 12e rang sur 47 pays en ce qui concerne l'indice mondial des pensions 2023 du Mercer CFA Institute. En comparaison, l'écart moyen entre les sexes dans 34 pays de l'OCDE se situait à 25,6%. À se comparer, on a beau se consoler. N'empêche, en 2020, on pouvait compter au Canada 200 000 femmes de plus que d'hommes âgés de 65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu. Et 21 % des femmes de 75 ans et plus avaient des revenus inférieurs à ce seuil, contre 13,9 % des hommes de même âge, soit un différentiel de 51 %. Évidemment, l'écart de rémunération y est pour quelque chose. De statistique en statistique, il se vérifie année après année, même s'il va en décroissant, largement aidé en cela par les transferts gouvernementaux. Au Québec, l'Observatoire québécois des inégalités disait en novembre dernier que le salaire horaire moyen des Québécoises de 15 ans et plus était de $30,90 en 2023, alors qu'il est de $33,80 pour les Québécois. Le salaire horaire moyen des femmes ne représentait à ce moment-là que 91 % de celui des hommes. Cet écart diminue depuis 2005, alors que le salaire horaire des femmes représentait 86 % de celui des hommes. Cette tendance s'observe aussi à plus long terme. Près de 10 ans plus tôt, au moment de l'adoption de la loi sur l'équité salariale en 1996, le salaire horaire moyen des femmes représentait environ 84 % de celui des hommes, ajoute l'organisme. Plus en détail, pour 2022, les données de l'Institut de la statistique du Québec indiquent que la rémunération horaire moyenne des femmes de 15 ans et plus était 10 % sous celle des hommes. Cet écart se creuse toutefois à 19 % lorsque la rémunération hebdomadaire moyenne est prise en compte, reflétant aussi, notamment, les charges familiales et le nombre d'heures travaillées. Ce différentiel peut atteindre 20 % lorsque le revenu médian après impôt est considéré, et 36 % en 2021 si l'on exclut du calcul l'impôt et les transferts. Pour les ménages, la différence de revenus, selon que le principal soutien est une femme ou un homme, passe de 26 % selon le revenu après impôt à 34 % selon le revenu de marché. Beaucoup de chiffres pour nous rappeler que l'effet sur la capacité d'accumuler un patrimoine retraite est donc direct, ne serait-ce que sur la capacité de dégager de l'épargne, mais aussi sur le droit de cotisation à un régime enregistré d'épargne retraite, calculé selon le moindre de 18 % du revenu gagné et un plafond annuel de cotisation. Il en va de même des prestations du régime de rente du Québec, une différence attribuable pour l'essentiel aux écarts de rémunération et aux retraits plus fréquents des femmes du marché du travail. Le cas échéant, il faut y ajouter l'impact des rentes des régimes complémentaires de retraite moins élevés. Déjà, deux des trois piliers du système de retraite canadien sont conçus autour du principe d'un revenu de base et de la protection de son pouvoir d'achat. Le troisième, qui abrite les régimes complémentaires de retraite, se veut le plus inégalitaire de tous. Ne serait-ce qu'en raison de leur admissibilité, pouvant être réduite pour le temps partiel, explique le Bureau ontarien sur l'équité salariale. On connaît les causes. On connaît les principales causes. La maternité et son impact tant sur le temps de travail que sur les interruptions dans les carrières. Les mères plus que les pères quittent le marché du travail temporairement ou définitivement. Le taux d'emploi des femmes augmente avec l'âge de leurs enfants, mais il ne rattrape jamais celui des hommes. Et le Bureau ontarien sur l'équité salariale d'ajouter « Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel en raison de leur responsabilité familiale. Le travail domestique, non rémunéré, est encore majoritairement effectué par les femmes. » S'ajoutent les types d'emplois et la surreprésentation des femmes dans des secteurs d'activité moins bien rémunérés, alors que leur accès à des postes à prédominance masculine et mieux rémunérés progresse peu. L'Observatoire québécois retient également que 24,5% des femmes salariées au Québec ont un emploi de faible qualité en 2023, c'est-à-dire à faible salaire, de qualification faible, occupé par une personne surqualifiée. Cette proportion se chiffre à 19,8% chez les hommes. La bonne nouvelle est que les femmes ont rattrapé les hommes en ce qui concerne les emplois de qualité élevée. Enfin, la loi sur l'équité salariale, adoptée en 1996 au Québec, ne s'applique pas aux entreprises qui comptent moins de 10 employés, ce qui est le cas de 71,7% des entreprises québécoises, souligne l'Observatoire. Et les postes de cadre? Malgré une amélioration importante depuis 2006, les femmes demeurent sous-représentées dans les postes de cadre au Québec, particulièrement en ce qui concerne les cadres supérieurs, ne constituant que 31% de cette catégorie en 2022. Elles sont toutefois un peu plus nombreuses dans les postes de cadre intermédiaires, 40% en 2021, relève l'Observatoire. Quant au sommet dans l'organigramme, dans leur rapport publié le 30 octobre, les autorités canadiennes en valeur mobilière ont indiqué que plus du quart des entreprises inscrites en bourse ne comptaient aucune femme à leur haute direction en 2024. C'était « Inégal face à la retraite », un texte de Gérard Bérubé, paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir.
Des algorithmes pour traiter le cancer. Un texte de Justin Vaillancourt, paru le 27 février 2025 dans La Presse. Allier le génie et la santé permet d'importantes avancées dans le monde médical. Le professeur Luc Boileau de l'Université Laval pilote un projet utilisant des algorithmes pour planifier des traitements contre le cancer plus rapidement et plus efficacement. Entretien. Que permet votre projet de recherche? En planifiant le traitement, on veut savoir quel est le meilleur endroit pour mettre les sources de radiothérapie afin d'éliminer la tumeur et d'épargner les tissus sains. Pendant très longtemps, c'était fait à la main. Aujourd'hui, c'est plutôt fait avec une imagerie 3D, mais ça prend un certain temps. Nous, avec des algorithmes, on fait tout ce que l'équipe soignante faisait manuellement, mais de façon automatique. Ça réduit le temps nécessaire pour planifier un traitement. On passe de plusieurs dizaines de minutes à quelques secondes. Qu'est-ce qui permet une telle avancée? On se base sur le fait qu'on a des super ordinateurs dans nos ordinateurs, et pour pas très cher. Ça s'appelle les cartes graphiques. Ces cartes-là, l'industrie des jeux vidéo les développe pour nous. Elles permettent plusieurs milliers d'opérations à la seconde. Quand on joue à un jeu vidéo en trois dimensions, tous les calculs se font automatiquement et très rapidement. Les cartes sont vraiment faites pour ça. Nous, on les utilise pour faire du calcul scientifique. Est-ce une première? Dans mon domaine, c'est une première. Avant, il y avait déjà des algorithmes, mais c'est vraiment le passage sur carte graphique qui nous permet d'être aussi efficaces. C'est une technologie qui a déjà été exploitée dans d'autres domaines scientifiques, mais en radiothérapie, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment le passage sur carte graphique qui nous permet d'être aussi efficace, explique le professeur Luc Boileau. Quel sera l'impact pour les patients? Il y a eu un premier essai clinique dans lequel on faisait de la planification traditionnelle, ensuite avec le nouveau système. Ce qu'on constate, c'est que pour des plans qui étaient aussi bons ou meilleurs, le temps de planification était coupé en deux. Pour des plans encore plus complexes, on s'attend à des gains de performance encore plus importants. Certains chercheurs, avec le traitement en Europe, ont vu des temps de 40 ou 50 minutes en clinique, à planifier à la main, se faire en 5 ou 10 minutes avec les algorithmes. Comment le génie peut-il être utilisé pour développer de nouveaux types de soins? Toute la technologie qui est associée à nos procédures modernes demande du développement avec du génie. Moi, je suis en physique médicale, donc c'est l'application des méthodes physiques au monde de la médecine. Toute l'application des procédés de génie au développement d'appareils médicaux est importante. Aussi, parmi les méthodes pour valider une idée qu'on a eue en laboratoire, du début jusqu'à la fin, plusieurs sont issus des sciences appliquées et du génie. Quelles avancées vont permettre le génie et l'intelligence artificielle dans le monde de la santé? C'est difficile de dire quels projets seront les plus marquants. Il y en a beaucoup en cours. L'analyse d'images va probablement aider beaucoup les radiologistes. Je pense que ça va arriver rapidement, mais je peux me tromper. Les algorithmes deviennent très bons pour analyser des images. C'est fait pour bien voir les textures et tout ce qui ressort d'une radiologie. C'était « Des algorithmes pour traiter le cancer », un texte de Justin Vaillancourt, paru le 27 février 2025 dans La Presse.
Des absences d'élèves aux lourdes répercussions, un texte de Zachary Goudreau paru le 22 février 2025 dans Le Devoir. Dans plusieurs régions du Québec, des syndicats d'enseignants déplorent le fait que les absences d'élèves génèrent une surcharge de travail importante pour leurs membres. Le syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal note ainsi que ses membres sont confrontés à un véritable casse-tête. Lorsque vient le temps de gérer le rattrapage de matière pour les élèves qui se sont absentés durant plusieurs jours. Quand et comment revoir la matière avec les élèves? Durant les récréations, le soir ou en les retirant d'autres cours? Toutes ces options sont loin d'être idéales et, dans un contexte de pénurie de personnel, nous manquons de ressources pour accompagner les élèves dans leur rattrapage sans affecter les autres activités éducatives, ajoute l'organisation par courriel. Le syndicat de l'enseignement de l'Outaouais constate lui aussi que ses membres vont régulièrement dépasser les heures prévues dans leur contrat de travail afin d'accompagner les élèves qui ont manqué des journées d'école, par exemple sur l'heure du midi ou à la fin des cours. Cet enjeu est très perceptible et irritant pour nos membres, ajoute sa présidente Nathalie Gauthier. En légère hausse à Montréal. Ces préoccupations d'enseignants surviennent au moment où les trois centres de services scolaires, CSS, francophones de la métropole, font état depuis le début de l'année scolaire en cours d'une légère hausse du taux d'absentéisme de leurs élèves par rapport à 2023-2024. Le CSS Marguerite Bourgeois évalue ainsi le taux d'absence d'élèves à des journées entières de cours dans les derniers mois à 3,7% au primaire et à 3,1% au secondaire. Ces pourcentages atteignent respectivement 5,8% et 9,3% au sein du CSS de Montréal, qui compte quelque 114 000 élèves. Nous comprenons que des imprévus peuvent survenir, mais chaque moment compte dans les apprentissages et les absences et retards peuvent avoir des impacts chez l'élève concerné, indique par courriel le CSS de Montréal qui assure que la gestion de l'assiduité se fait de façon rigoureuse dans ces écoles. Une mince augmentation est aussi notée cette année au CSS de la Pointe-de-l'Île, où le taux d'absentéisme atteint 4,09% au primaire cette année et 3,29% au secondaire. Mise en place de balises. Certaines des absences d'élèves sont liées, notamment, à des maladies, à des rendez-vous avec des spécialistes de la santé ou encore au décès d'un membre de leur famille. Ce qui préoccupe cependant plusieurs acteurs du milieu scolaire, ce sont les absences qui seraient associées à des activités sportives et à des vacances familiales. Les directions d'école rencontrent ainsi régulièrement des parents après avoir été informés d'absences à venir d'élèves dans certaines classes afin de les sensibiliser aux impacts que ces absences pourraient avoir sur la réussite scolaire de leurs enfants, souligne la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Kathleen Legault. On décourage toujours les parents de partir pendant les journées de classe, lorsque le motif de leur absence n'est pas sérieux, souligne-t-elle. La présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert, constate d'ailleurs que certaines écoles ont mis en place des balises pour éviter que des enseignants aient à fournir de la matière aux parents qui partent en vacances et souhaitent permettre à leurs enfants de continuer à suivre le contenu de leurs cours pendant cette période. Le CSS des Mille-Îles, dans les Laurentides, rappelle d'ailleurs que l'enseignant n'a pas l'obligation de fournir du travail scolaire pendant les absences pour cause de voyage ou de compétition sportive des élèves, et qu'il est de la responsabilité de l'élève et de ses parents de minimiser l'impact de leurs vacances sur son parcours et sa réussite scolaire. Je pense qu'il y a une préoccupation dans les milieux pour que tout ça ne devienne pas une surcharge pour les enseignants, note ainsi Mme Hubert. Plus de matière à la veille des congés. Au moment où le ministère de l'Éducation affirme explorer différentes avenues pour valoriser l'assiduité scolaire, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost, propose que plus de matières soient enseignées dans les journées qui précèdent des congés fériés, ce qui pourrait, selon lui, décourager les parents d'organiser des voyages avec leurs enfants pendant ces périodes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des activités spéciales de temps en temps, mais on a le rôle de rentabiliser ces 180 jours pour que ce soit des jours avec de l'apprentissage, estime-t-il. La professeure titulaire au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais, Christelle Tardif-Grenier, plaide pour sa part pour l'instauration de normes provinciales qui viendraient délimiter un seuil minimal de jours de présence scolaire par année pour les élèves, du moins pour encadrer les absences qui ne sont pas justifiées sur le plan médical. Actuellement, les absences sont gérées au cas par cas, à la discrétion de chaque école, souligne-t-elle. Et ça, c'est un enjeu. C'était « Des absences d'élèves aux lourdes répercussions », un texte de Zacharie Goudreau paru le 22 février 2025 dans Le Devoir.
Dois-je demander à mon patron la permission d'aller travailler au soleil? Un texte de France Dufresne paru le 4 mars 2024 dans La Presse. J'en ai marre de l'hiver. J'ai l'occasion d'aller séjourner un mois au Mexique chez des amis. Comme je suis une employée de bureau, tout ce dont j'ai besoin est mon ordinateur et un bon signal Wi-Fi. Est-ce que je dois demander la permission à mon patron? Comme je prévois être disponible durant les heures normales de travail, dois-je même l'en informer? Demande Rosalie, une lectrice. Il est vrai que la quantité de neige reçue cet hiver peut en inciter plus d'un à vouloir s'exiler au chaud pour quelques jours, voire quelques semaines, et ainsi retrouver le confort des sandales. L'arrivée du télétravail a profondément transformé les façons traditionnelles de travailler et l'organisation même du travail. Les frontières entre le lieu de travail et le domicile se sont estompées, offrant un tout nouveau sens au mot « flexibilité ». Cependant, cette flexibilité soulève également des questions importantes, notamment en matière de confiance et de communication entre l'employeur et l'employé. Rosalie, regardons de plus près comment je peux vous guider avec cette demande, mais avant toute chose, je tiens à vous souligner qu'il est impératif de demander la permission à votre employeur. En effet, un contrat de travail typique prévoit un lieu de travail précis. Il est de votre responsabilité d'informer votre employeur d'une modification des clauses de votre contrat, même de façon temporaire. Bien évaluer le contexte. Tout d'abord, vous devrez tenir compte de plusieurs éléments qui vous permettront rapidement de déduire si votre demande sera acceptée ou non. Il vous faudra examiner la nature de vos tâches. Dans quelle mesure travaillez-vous de manière indépendante? Et devez-vous collaborer avec des collègues ou clients, etc. Serez-vous facilement joignable? La communication restera-t-elle fluide? Serez-vous en mesure de garantir une connexion Internet fiable? Idéalement, les personnes avec qui vous travaillez ne devraient subir aucun impact et ne sentir aucune différence. Il va donc sans dire qu'il est de votre devoir de vous assurer que vos heures de travail soient les mêmes que les heures normales du lieu de travail habituel, peu importe le décalage horaire. Votre niveau de performance et votre ancienneté doivent aussi être pris en compte. Un bon bilan et une pleine maîtrise de vos responsabilités peuvent rassurer votre employeur sur votre capacité à travailler efficacement à distance, sans supervision. Ensuite, pour soutenir votre demande de travailler du Mexique, vous devriez être honnête et clair avec votre employeur sur les raisons de votre séjour en lui expliquant que votre intention est de profiter d'un environnement plus agréable tout en restant pleinement disponible et tout aussi productive. De plus, vous devriez pouvoir lui démontrer que vous disposerez d'un environnement de travail adéquat, privé, calme, productif, avec un bon signal Wi-Fi et que vous avez prévu un plan de contingence en cas d'urgence ou de pépin technique, solution de rechange, possibilité de revenir rapidement, etc. Même si vous répondez à toutes les exigences en matière de productivité, vous devez savoir que votre employeur devra également prendre en considération une multitude d'autres facteurs avant de rendre sa décision. Sécurité informatique et physique, répercussions fiscales, impact sur les assurances, respect des lois et obligations, équité interne, pour n'en nommer que quelques-uns. Pouvoir travailler à distance, notamment pendant une longue période, est un privilège et demeure à la discrétion de l'employeur. Ce type d'arrangement n'est pas la norme dans plusieurs milieux professionnels et doit plutôt être considéré comme une faveur accordée. Sachez que très peu d'employeurs consentiront à une telle demande sans que votre parcours soit solide et que vous ayez fait vos preuves. Si certains des éléments mentionnés ci-dessus s'avèrent problématiques, il y a de fortes chances que votre demande soit refusée. Pour aider l'employeur de Rosalie, pour faire face à cette nouvelle réalité, les entreprises doivent se doter d'une politique claire concernant le travail à distance, y compris à l'étranger. Cette politique devrait couvrir plusieurs aspects, tels que l'obligation pour l'employé désirant travailler à l'étranger d'en faire la demande, y compris la marche à suivre, les facteurs ou critères qui seront évalués, les informations nécessaires à fournir, ainsi que les responsabilités de l'employé en cas de problème technique ou personnel. Elle doit aussi inclure les attentes minimales de l'employeur, notamment être disponible pendant les heures normales de travail, minimiser tout impact sur le reste de l'équipe, être en mesure de revenir sur place dans un délai raisonnable, etc. Enfin, elle devrait comprendre des indications claires sur les frais que l'employé pourrait avoir à engager à l'étranger, par exemple, des frais de cellulaire, de données, etc. L'employeur de Rosalie devrait évaluer les demandes de travail à distance de façon individuelle. Chaque employé a des circonstances et des besoins différents. Et une évaluation personnalisée permet de prendre des décisions éclairées. Il est important de garder en tête que bien qu'accepter une telle demande renforcera fort probablement le sentiment de satisfaction et ultimement la rétention des employés, elle créera aussi un précédent avec une complexité de gestion additionnelle et des risques non négligeables. L'employeur a tout intérêt à bien évaluer les impacts fiscaux pour l'entreprise et pour l'employé, ses obligations en matière de sécurité, cybersécurité, physique, etc., d'assurance et de travail à l'étranger. La somme de ces tâches peut en décourager plusieurs, mais mieux vaut bien faire les choses que de se retrouver avec des problèmes si un événement survenait ou avec des employés travaillant à l'étranger sans même en être au courant. Si l'employeur de Rosalie décide de refuser sa demande, il doit lui expliquer, ainsi qu'à son gestionnaire, les raisons du refus en mettant l'accent sur les réalités d'affaires telles que celles mentionnées précédemment. Il est important que Rosalie sache que sa demande a été évaluée avec attention et que la porte reste ouverte pour de futures demandes en matière de flexibilité. Son gestionnaire pourrait, par exemple, lui proposer des solutions de rechange, telles qu'un congé sans solde ou un aménagement temporaire de son horaire de travail. Et qui sait, peut-être que si Rosalie demande à faire un essai pour une période plus courte, une semaine au lieu d'un mois, ou offre de changer de destination, peut-être que sa demande sera acceptée. L'important ici est de maintenir une discussion respectueuse et de comprendre en toute objectivité les raisons qui motivent le refus. C'était « Dois-je demander à mon patron la permission d'aller travailler au soleil ?» un texte de France Dufresne, paru le 4 mars 2024 dans la presse.